Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le nouveau président de la province des îles, Michael Forest. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour Radio Rythme Bleu.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir sur votre élection et sur vos projets pour la province des îles. Mais tout de suite, un mot sur l'actualité immédiate avec l'élection, il y a quelques instants, quelques heures, du 19e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Quelle est, pas de surprise pour cette élection, quelle est votre réaction ?
Ma réaction, c'est une réaction, on va dire, de responsable politique, notamment par rapport à la crise du transport qui secoue les îles Loyauté. Donc, j'avais pris l'engagement de faire comme un dossier prioritaire, mais notamment le dossier relatif à Calédonie. Donc, j'ai déjà quelque part saisi l'opportunité de pouvoir dialoguer avec le futur membre en charge du transport pour rapidement mettre en œuvre les engagements qu'on a pris pendant la campagne, c'est-à-dire de pouvoir instaurer une dynamique de dialogue, de consultation et de concertation rapidement avec l'ensemble des parties, de manière à ce qu'on puisse retrouver une quiétude sur l'ensemble des îles, d'abord pour nos populations, notamment d'un point de vue sanitaire, mais aussi pour l'ensemble des acquis politiques que nous avons développés depuis le temps des régions, depuis le temps des accords Matignon-Guineau, de Nouméa aussi. Mais je parle notamment de plusieurs secteurs stratégiques pour les îles, notamment le secteur du tourisme, par exemple, mais pas que. Donc, on va dire que c'est un sentiment naturel de responsable pour rapidement se mettre au travail.
L'Union calédonienne a fait élire Gilbert Thuénon, Juanito Wamitan, Ernest Demenet, Meryl Marlier. On connaît bien le premier qui siège au gouvernement depuis 2014. Les autres, en revanche, sont plus novice, entre guillemets. Comment s'est fait ce choix de l'Union calédonienne ? Comment est-ce que vous avez choisi ces personnalités-là pour être au gouvernement ?
C'est-à-dire que c'est dans la dynamique du congrès de Penelo de janvier 2026, qui nous avait notamment, par exemple, permis à l'avant-dernier comité directeur de Moindou de pouvoir impulser une dynamique de rajeunissement de nos cadres politiques, donc notamment pour M. Wamitan et M. Demenet, qui traverse, on va dire, les cases du mouvement Union calédonienne depuis plusieurs années déjà, dans l'ombre, sur du travail de militants, du travail technique, du travail dans les cabinets aussi. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour eux dans une responsabilité. Et pour Mme Marlier, c'est aussi dans la dynamique historique de pouvoir continuer à bâtir le pays sur la base de notre devise de couleur un seul peuple, d'une part. Et d'autre part, Mme Marlier est aussi beaucoup investie dans la société civile avec plusieurs actions dans le nord du pays. Donc on va dire que c'était des choix qui se sont faits, on va dire, naturellement sur la base du cadrage politique qui a été affirmé à notre dernier congrès de Penelo sur l'île de Marie.
Alors vous-même, Michael Forest, vous avez été membre du gouvernement pendant 5 ans sous les gouvernements Mapu et Ponga. Qu'est-ce que vous en retenez ? Quel est le bilan que vous faites de ces 5 années ?
C'est une responsabilité importante. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de remercier d'abord la famille de l'Union calédonienne pour, on va dire, cette décision qui m'a donné l'opportunité de pouvoir siéger au gouvernement pendant 5 ans. En termes de réalisation, on a été d'abord obligé de s'inscrire dans les différentes crises sanitaires, politiques, climatiques, qui nous ont obligés quelque part à stimuler notre action au sein de la collégialité, d'une part, et puis d'autre part sur des secteurs important aussi, comme je prends l'exemple de la promotion du tourisme international, où jusqu'en 2021, il y avait 3 agences de promotion extérieure. Donc depuis décembre 2021, on a créé Nouvelle-Calédonie Tourisme pour permettre justement à l'ensemble des provinces, mais aussi l'ensemble des 33 communes, l'ensemble des professionnels qui sont issus du privé, de pouvoir porter d'une seule voix à l'extérieur, mais aussi de pouvoir développer d'autres opportunités, comme par exemple une convention que j'avais signée avec l'Association des croisiéristes pour le Pacifique, de manière à continuer à diversifier notre offre qui peut continuer à venir accompagner, impulser et soutenir les initiatives qui sont prises, notamment auprès de notre peuple.
Le 19e gouvernement va donc être installé. Selon vous, quelles sont ses missions prioritaires aujourd'hui dans la situation que connaît la Calédonie ?
Sa mission prioritaire, j'ai eu l'occasion de le rappeler plusieurs fois, Elisabeth. Nous, depuis la constitution du budget 2022, c'était notamment mon collègue en charge du budget à l'époque, M. Slamet, qui avait annoncé publiquement que le pays était au bord de la faillite, d'une part. D'autre part, dû justement à ces différentes crises successives, qu'elles soient encore une fois politiques, d'ordre sanitaire ou climatique, on a vu plusieurs mécanismes d'accompagnement, notamment de l'État, qui, quelque part, aujourd'hui, nous oblige à plus de clarifications en termes de lecture comptable et budgétaire. On a pu voir le débat cette semaine autour de la motion préjudicielle autour du compte administratif. Donc, je pense qu'il y a une difficulté budgétaire qui est devant nous. Mais voilà, je suis aussi avec vous ce midi, Elisabeth, pour rappeler que je suis là en tant que président de la province des îles. Et nous, notre dossier prioritaire, c'est celui du transport. Donc, on va aussi faire en sorte que l'exécutif nouvellement élu puisse aussi créer les conditions justement pour trouver une issue à cette difficulté.
On va parler justement de votre présidence de la province des îles. Vous avez été élu le 3 juillet dernier. Votre liste UCF-LNK s'était arrivée en tête des provinciales, mais de peu, vous avez obtenu 6 sièges sur 14. Est-ce que vous aviez été déçu de ces résultats? Vous attendiez à faire mieux?
Non, 6 sièges sur 14, je rappelle que c'est notre score en termes de sièges hein, depuis les élections de mai 2009. Donc, on a eu le même nombre de sièges en décembre 2009, en mai 2014, en mai 2019 et enfin en juin 2026. Mais c'est vrai aussi que nous sortons d'une mandature assez délicate, hein, notamment pour le mouvement néo-calédonien, parce que on a eu deux exécutifs durant la même mandature. On a eu des difficultés de gestion, de lecture politique aussi, où quelque part, encore une fois, notre situation de double insularité ne nous a pas permis réellement de pouvoir nous inscrire dans une dynamique on va dire, de sincérité et de transparence compte tenu de la fin de l'accord de Nouméa. Mais encore une fois, nous avons porté durant notre campagne des engagements pour faire en sorte, sur la base des compétences qui nous sont dévolues par la loi organique, qu'on puisse initier plusieurs chantiers qui vont d'abord participer à redonner un souffle nouveau aux finances publiques avec plusieurs indicateurs, plusieurs travaux qui sont sur la table actuellement, hein, avec l'ensemble des partis, notamment l'État, notamment la Chambre territoriale des comptes, par exemple, mais aussi sur d'autres secteurs stratégiques, notamment les filières de développement qui sont autour de la SODIL, par exemple, mais aussi sur d'autres sujets de société sur lesquels notre peuple souffre régulièrement, mais c'est l'absence de médecins qui est aussi une réalité pour l'ensemble du pays, mais aussi pour l'ensemble des îles du Pacifique. Parce que c'est aussi notre responsabilité, justement, de pouvoir voilà, créer les conditions pour que, sincèrement, avec l'ensemble des partenaires de l'accord de Nouméa, on puisse engager une dynamique politique pour la sortie de l'accord.
Pour revenir sur la majorité dont vous disposez aujourd'hui à la province des îles, vous avez été élu grâce aux deux voix du Palika. Ça s'est passé comment? Vous avez un accord avec eux, un accord de gouvernance, un accord de répartition de postes, ou naturellement ils se sont portés vers vous?
On va dire que c'est dans une dynamique mélanésienne où la parole, le dialogue, la consolidation des différents liens que l'on a, hein, notamment entre les différents partis indépendantistes, a primé. Et dans le cadre d'une discussion, d'un échange, notamment avec Mme Oetcha, avec Mme Naisling, on a pu trouver cet équilibre qui m'a permis de pouvoir accéder à l'exécutif, d'une part, mais aussi d'autre part, je veux quand même rappeler que le Palikai, il était aussi membre de l'exécutif sortant, parce que Mme Oetcha, elle était aussi deuxième vice-présidente de M. Wanneux. Donc j'ai eu l'occasion de le dire sur l'antenne de vos confrères, hein, que ce soit l'exécutif Laillé ou l'exécutif Wanneux, moi je portais les bilans. J'assumais la responsabilité politique, parce que c'est d'abord l'Union calédonienne qui est mise en avant à travers les différents mandats qui nous sont confiés par le peuple. Donc cela dit, encore une fois, sur la dynamique un peu plus globale au niveau du FLNKS, on a aussi martelé pendant la campagne que la porte du FLNKS, elle n'est pas et elle ne sera jamais fermée pour l'ensemble de la famille indépendantiste. Donc c'était aussi quelque part l'occasion pour créer les conditions d'une voie nouvelle pour, encore une fois, faire en sorte, hein, comme je l'ai rappelé par ailleurs, faire en sorte de pouvoir créer les conditions sincères, transparentes pour qu'on puisse sortir ensemble de l'accord de Nouméa.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émergence, en tout cas du bon score de nations autochtones qui était conduite par Omera Nestlé, qui est par ailleurs votre sœur? C'est une une nouvelle mouvance dans le camp indépendantiste qui justement est plus autochtone peut-être que ne le sont les autres partis.
Oui, on peut la considérer comme ça. De toute manière, je rappelle que depuis le congrès de Pagou, hein, donc Dynamique Autochtone est membre à part entière du FLNKS, mais c'est aussi important de rappeler, Elisabeth, que l'Action Autochtone, c'était aussi un regroupement de 4 ou 5 partis, hein, parce qu'il y avait Dynamique Autochtone, il y avait Alternative Loyauté, il y avait Dynamique Unitaire Sud, il y avait également une partie du Parti Travailliste et une partie de l'UCN Monet. Donc, on va dire, c'est une analyse au niveau de l'électorat qui peut considérer qu'ils ont fait un score important. C'est aussi pour ça qu'ils ont eu 6 sièges. Aujourd'hui, l'heure, il est plus au travail au sein des commissions qu'on a nommées dernièrement, mais aussi sur d'autres sujets importants, comme la semaine prochaine avec le conseil d'administration de la SODIL pour rentrer dans les dossiers.
Alors justement, vous y faisiez allusion, bien sûr, vos priorités à la tête de la province des Îles. On pense que c'est d'abord la situation financière qui est extrêmement dégradée. Ça vous inquiète? Vous avez des réponses? Vous avez des solutions pour redresser la situation?
On va dire d'abord que l'inquiétude, elle est naturelle parce que les indicateurs, justement, ils sont sur la table. Ensuite, ça fait à peu près 3 semaines que nous avons investi les différents dossiers, les différents sujets. Effectivement, comme hier, par exemple, où j'ai reçu ici sur l'IFO la mission interministérielle, il y a aussi d'autres dialogues que l'on continue à porter avec les organismes bancaires, par exemple. On va dire que la difficulté, c'est aussi notre responsabilité de la transformer en opportunité. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de possibilités, notamment en termes de financement de politiques publiques, qui doit aussi nous permettre de nous inscrire dans une dynamique nouvelle. Néanmoins, je rappelle aussi que nous sommes tenus hein, par rapport à la dette et aux engagements pris avec M. Wanné et la Chambre territoriale des comptes de pouvoir suivre un certain nombre de préconisations sur lesquelles nous allons respecter. D'ailleurs, le dernier rapport de la Chambre le pointe, même s'il y a encore beaucoup à faire sur les différents indicateurs. En tous les cas, nous, on n'est pas fermés hein, justement à pouvoir continuer à instaurer le dialogue. Et c'est vrai aussi, comme je l'ai rappelé en introduction, l'élection du nouvel exécutif ce matin au niveau du pays nous donne aussi cette opportunité-là de pouvoir continuer à s'investir sur les dossiers et trouver des solutions techniques, mais aussi en termes de finances publiques.
Alors, la Chambre territoriale des comptes, vous le disiez, elle a constaté que la province des îles Loyauté avait respecté son plan de redressement. C'est à mettre à l'actif de Mathias Wanneux.
Bien sûr, parce que nous sommes là que depuis 3 semaines, mais encore une fois, nous sommes là dans une dynamique de continuité aussi, mais une continuité qui doit nous obliger justement à pouvoir redoubler d'efforts, à pouvoir aussi amener un petit peu d'air frais aussi dans la machine provinciale avec beaucoup d'agents, de directions sur lesquelles nous allons nous engager dans les prochaines semaines sur ce qu'on a pu faire au niveau du gouvernement, par exemple, avec un plan d'évolution de l'administration, de manière à être plus efficient dans les politiques publiques, mais aussi d'être plus, de plus respecter la dynamique de rééquilibrage sur l'ensemble des 4 îles Loyauté, et notamment sur l'île de Tiga.
Parmi les postes de dépenses, il y a notamment les charges de personnel. Est-ce que vous allez devoir continuer à les diminuer? Ou est-ce qu'il y a un moment où vous ne pouvez plus, où vous devez garder quand même un certain nombre d'agents provinciaux?
C'est une obligation. C'est une obligation, Madame Noir, mais encore une fois, nous avons plusieurs outils à notre disposition, notamment la loi organique qui offre notamment aux conseillers au niveau du Congrès de pouvoir agir sur les différents mécanismes qui agissent sur la fonction publique. Donc, encore une fois, il y a plusieurs textes qui sont sur la table. Charge à nous de pouvoir mouiller la chemise pour aller ouvrir, chercher et créer les conditions pour s'inscrire encore une fois dans cette dynamique de quiétude qu'on appelle tous pour la collectivité provinciale, mais surtout vis-à-vis de nos populations sur les îles Loyauté.
Vous avez énormément de gros chantiers qui vous attendent. En dehors de la situation financière et malgré la situation financière, est-ce que vous allez avoir les moyens de réaliser des projets et des investissements?
Il y a déjà quand même les enveloppes relatives au pacte de refondation qui sont là. Encore une fois, je vous indiquais que j'ai reçu la mission interministérielle pas plus tard qu'hier. Donc on a profité pour toiletter notre méthode de travail en commun, mais aussi avec le commissaire délégué, avec l'ensemble des directions provinciales, mais aussi avec la mairie de l'IFOU, l'ensemble des mairies des îles Loyauté, pour ben justement profiter de cette nouvelle dynamique politique, de ce nouveau souffle démocratique qui nous a permis d'être à la tête de la province aujourd'hui, ben pour mieux utiliser ben justement les possibilités financières qui ont été réaffirmées ces derniers jours par le directeur de la mission interministérielle. Donc c'était aussi une occasion pour mettre en place un nouveau mécanisme de suivi, d'engagement au niveau des différents dossiers, sur les différents piliers justement qui ont été offerts par cette nouvelle possibilité de souffle financier pour l'ensemble des collectivités du pays, notamment pour la province des îles.
Alors, dans la vague 2 du plan de relance, l'État va financer notamment un centre d'accueil médico-social et un centre d'intervention et de secours à l'IFOU. Vous êtes satisfait de ces choix? C'était vraiment des investissements indispensables?
C'est indispensable, mais j'ai pu l'indiquer hier encore une fois que ma volonté, c'est d'être plus offensif parce que le besoin il se fait sentir sur l'ensemble des secteurs, que ce soit humain au niveau des infrastructures, par exemple au niveau des hôtels, mais aussi sur l'opportunité de mieux utiliser l'enveloppe pour la jeunesse des îles Loyauté. Donc, je profite de l'occasion pour aussi rappeler que ben, cette semaine, on a une délégation de jeunes qui est présente sur l'île de Tana avec l'appui et le soutien du Centre d'information jeunesse du pays. Maintenant aussi notre troisième vice-présidente, donc Madame Marguerite Pia, qui est présente pour les célébrations de la fête de l'indépendance du Vanuatu à Port-Vila, mais pas que. Donc on a aussi des rendez-vous techniques avec l'Université du Vanuatu, qui accueille quelques étudiants des îles, mais qui est aussi en convention avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi avec l'Université de Toulouse-le-Mirail. Donc encore une fois, c'est des engagements qu'on a pris pendant la campagne sur lesquels chargez-nous d'aller chercher les opportunités d'accompagnement financier pour pouvoir mettre en œuvre nos politiques publiques. Mais la priorité des priorités, Elisabeth, c'est comme je vous l'ai rappelé, hein, c'est de pouvoir rapidement régler la difficulté du transport, pas que le niveau aérien, il y a aussi le maritime, mais aussi au niveau terrestre, parce que j'ai pu aussi m'exprimer sur le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort de l'accord de Nouméa avec des compétences qui sont partagées et qui ne permettent pas quelque part de pouvoir créer les conditions sincères d'un développement serein. Ça marche aussi pour le terrestre, pour le maritime, mais en termes d'enveloppe, et comme vous parlez de vagues aussi, hein, donc moi j'ai eu l'occasion de le dire en collégialité devant le commissaire, devant l'ensemble des membres de l'ancien gouvernement, que c'était inacceptable que les îles Loyauté sur l'enveloppe du gouvernement en soient absents. À l'instar des différents services et directions du gouvernement qui sont pratiquement absents sur les îles Loyauté aujourd'hui. On a un agent du port, on a un officier public coutumier, on a peut-être un agent des douanes, mais sinon, on n'a pas de service, on n'a pas de direction. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle opportunité pour nous, pour nous engager avec le nouvel exécutif, pour créer les conditions que l'ensemble des délibérations et des projets de loi qui sont adoptés au niveau du pays puisse avoir une répercussion sincère dans la vie de notre peuple sur les îles Loyauté. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, Elisabeth, sur les différents mécanismes pour la lutte contre la vie chère ou l'accompagnement pour les emplois. Ben, souvent, on a des difficultés de mise en œuvre sur les îles Loyauté. Donc, c'est des sujets sur lesquels on va travailler dans les prochaines semaines avec l'exécutif. Mais c'est aussi important de se rapprocher des collectivités et institutions déjà présentes sur les îles, notamment les trois communes et les trois conseils d'air, pour créer une nouvelle synergie qui doit encore une fois nous permettre d'aller ensemble avec l'ensemble des parties vers la sortie de l'accord de Nouméa.
Le transport, c'est effectivement l'un des problèmes essentiels. Alors, vous le disiez, maritime, terrestre, mais aérien aussi. Avec notamment le problème de la question du déménagement d'Aircal. Les vols sont interrompus depuis près de 5 mois maintenant, hein, sur Ouvéa et sur Marais. Ça a repris un peu sur l'IFOU. Comment est-ce que vous pensez régler la situation? Quelle est votre position, vous? Est-ce que les usagers de Marais et d'Ouvéa ont raison de continuer à bloquer les aéroports?
Moi, je vais surtout donner mon avis en tant que responsable politique. C'est un avis que j'ai déjà partagé durant la campagne hein, pour les provinciales. C'est que je suis aussi bien placé pour l'exprimer. C'est que les conditions des déplacements sur Tototo n'ont pas été travaillées, n'ont pas été respectées. D'ailleurs, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Quand on arrive sur Tantouta, il y a des navettes, on va dire, privées qui sont un petit peu au nord, il y a des navettes publiques, il n'y a pas de gare routière. Il y a un certain nombre, on va dire, ce qu'on avait appelé, nous, les prérequis techniques pour pouvoir envisager un déplacement sur Tantouta qui devait aussi se faire dans un cadre global du schéma de mobilité qui doit nous permettre de mieux utiliser les potentiels qui nous sont offerts par l'aérodrome de Ouanam aujourd'hui, qui a un standard qui nous permet d'aller soit sur Tana, soit sur Santo, mais aussi sur le port de Wé, par exemple, où encore une fois, le PANC a pu créer les conditions pour avoir un appel d'air financier au niveau de l'Europe pour faire des investissements, mais aussi utiliser quelque part les enseignements. Elisabeth, par exemple, lorsqu'on a célébré les 70 ans de la Monique, on a vu qu'il y a 50 ans, sur les îles ET, il y avait toutes les semaines entre 4 ou 5 bateaux qui faisaient l'aller-retour. Donc c'est aussi un dialogue qu'on doit avoir avec les services de l'État, notamment l'aviation civile et les affaires maritimes, pour qu'on puisse regarder justement les difficultés juridiques qui peuvent être levées. Mais c'est dans une dynamique, encore une fois, de sincérité et de transparence, parce qu'il y a aussi la sécurité des usagers. Et d'autre part, c'est aussi le morcellement des compétences. Ou, par exemple, sur l'axe Noumea, c'est le gouvernement qui doit respecter sa compétence compte tenu de la loi organique.
Mais en attendant, il va bien falloir sortir de ce blocage d'Air Calédonie. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation?
Je l'ai précisé précédemment, c'est-à-dire que j'ai déjà pris contact avec le membre du gouvernement qui est senti pour prendre le secteur du transport, et nous allons prendre dans les prochains jours notre bâton de pèlerin pour recréer les conditions d'un dialogue sincère et transparent avec l'ensemble des parties pour pouvoir proposer rapidement des solutions de sortie.
Concernant le tourisme, c'est évidemment l'un des axes de développement de votre province. Quelle est votre position sur l'hôtel Ouadraby? Il est en redressement. Vous pensez qu'il va pouvoir ouvrir et vous souhaitez qu'il devienne un pôle de développement touristique de la province?
Alors, ce n'est pas un souhait, c'est une dynamique, encore une fois, qu'on a inscrit dans le cadre des accords, Elisabeth. Hein, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais peut-être pas sur votre antenne, c'est que en 88, on a décidé de ramener la paix dans le pays. On a décidé ensemble de s'inscrire dans une dynamique de rééquilibrage. En 98, on devait avoir le premier référendum. Nos anciens ont décidé, sur la base, encore une fois, d'un dialogue avec l'ensemble des partis, d'inscrire le pays sur la voie de l'émancipation. Aujourd'hui, quelque part, on doit créer les conditions de sortie pour une souveraineté réfléchie, concertée. Et donc, sur votre question, naturellement, l'hôtel de Ouadraby doit être un phare de notre offre touristique pour la province des îles, mais aussi pour le pays tout entier. Et charge à nous, justement, de pouvoir créer les conditions avec notamment les partenaires de la région, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu, à Fidji, par exemple, mais aussi avec les différents mécanismes que l'État a installés dans la région Pacifique. Il y a aussi les Américains qui sont là. J'ai eu l'occasion de le dire que 3 semaines avant les provinciales, on avait reçu une délégation de Washington envoyée par le gouvernement Trump. Donc on peut dialoguer avec les Américains, avec notre puissance administrante qui est la France, avec les Chinois qui sont aussi un partenaire commercial du pays autour du nickel. Il ne faut pas avoir de pouvoir développer un regard objectif sur l'ensemble des opportunités qui nous sont offertes. Charge à nous après, en tant que responsables, en toute sincérité et transparence, d'engager un dialogue pour trouver, on va dire, un accord qui serait gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties.
Justement, comment est-ce que vous voyez l'avenir institutionnel, Michael Forest? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une reprise des discussions avec le Premier ministre? Est-ce que vous souhaiteriez y participer le cas échéant?
Mais au niveau de l'Union calédonienne et du FNKS, on n'a jamais été fermé à la discussion. Et ça a d'ailleurs été rappelé lors de la dernière résolution. adoptée par l'Assemblée générale le vendredi 5 décembre 2025 sur New York.
Oui, mais on vous reproche de ne vouloir parler que de l'accord de Kanaky. Est-ce que vous seriez prêt à parler d'autre chose, à élargir un peu le champ des discussions institutionnelles?
On serait prêt à élargir, mais je disais peut-être l'accord de Kanaky, c'est quoi? L'accord de Kanaky, c'est une proposition du FNKS pour structurer la période de transition, c'est-à-dire la sortie de l'accord de Nouméa. On peut lui donner d'autres termes si vous voulez, mais notre volonté, c'est bien de pouvoir créer les conditions pour actualiser notre projet de constitution, faire en sorte que, encore une fois, l'ensemble des parties soient respectées, mais dans une dynamique de sortie d'un processus de décolonisation. Après, c'est vrai aussi que vous avez pu le constater ces dernières semaines, les appétits des grandes puissances pour nos proches voisins. On a pu observer, par exemple, que la France s'est rapprochée au niveau du secteur de la défense de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La France, encore une fois, cette semaine, a fait des opérations autour de la défense militaire avec Fidji. Il y a le Vanuatu qui a signé le Nakamal Agreement avec le Vanuatu. Voilà. Il y a plusieurs instruments de coopération qui sont sur la table, à l'instar de l'accord France, hein, France, Australie, Nouvelle-Zélande, qui participe aussi concrètement à poursuivre cette dynamique de coopération au niveau de la région. Mais encore une fois, il faut que ce soit dans une dynamique gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties. Sur le deuxième sujet de votre question, en tant que vice-président du Canada, on est tenu de pouvoir continuer à inscrire notre action politique, hein, encore une fois, sur la base de nos motions de Pénélo. Mais c'est vrai aussi que, comme vous le savez, dans moins d'un an, il y a aussi les élections nationales françaises. Voilà, il y a un certain nombre de difficultés qui sont là, mais le dialogue, il est toujours possible et il faut qu'il se développe pour qu'on puisse continuer ensemble à trouver les voies de la sortie de l'accord de Nouméa, mais aussi pour lever les difficultés qu'on a pu constater, notamment depuis la tentative de passage en force de mai 2024.
Mais en prenant en compte aussi le résultat des trois référendums et la volonté d'une majorité de Calédoniens de rester dans la France, est-ce que c'est un élément que vous prenez en considération?
Le troisième référendum, plus précisément, justement, la résolution du 5 décembre 2025 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, appelle l'ensemble des parties, et notamment la puissance administrante, à organiser un acte d'autodétermination. Donc, dans le cadre de l'accord de Nouméa. Donc, après, chaque partie a sa lecture politique, au niveau local, au niveau national, au niveau international. Nous, on reste sur le fait que vous étiez présents dans le pays, dans la mesure où la crise du Covid nous a beaucoup impacté, notamment le monde mélanésien, et c'est pour ça qu'on a fait une demande. Mais voilà, après, c'est un sujet important qu'il faut qu'on continue à dialoguer, mais dans une perspective de souveraineté politique réfléchie, maîtrisée avec l'ensemble des partis, dans une dynamique gagnant-gagnant pour tout le monde.
Alors Michael Forest, vous êtes réputé proche de la CCAT, vous vous êtes vanté, même vous, d'avoir effectué une quinzaine de déplacements à Bakou. Deux ans après les émeutes de mai 2024, vous assumez toujours ces engagements et vous retourneriez ou vous retournerez en Azerbaïdjan?
Elisabeth, la CCAT, elle n'est pas tombée du ciel. Hein. Voilà, je pense que tu étais présente à notre conférence de presse au sortir du congrès de l'île des Pins. Donc, ça a fait l'objet d'un travail auprès d'abord de nos structures, ensuite en atelier, ça a débouché sur une résolution politique qui demandait justement de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de mobilisation. Donc, on assume totalement, pleinement, en toute responsabilité, la création et les actions de la CCAT. Sur l'Azerbaïdjan, vous avez pu encore une fois constater ces dernières semaines un rapprochement important entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne qui est un des poids lourds de l'Europe, comme la France d'ailleurs, mais aussi la Commission européenne qui s'est aussi rapprochée de Bakou. Donc, encore une fois, c'est ce que j'ai pu le dire plusieurs fois aussi, Elisabeth, c'est que ce n'est pas le FNKS qui a décidé qui doit présider le mouvement des non-alignés. Le FNKS, il est membre observateur des non-alignés depuis septembre 1986 au sommet de Harare au Zimbabwe. Et depuis 1986, nous travaillons avec les différents exécutifs des non-alignés. Et c'est vrai que depuis 2012-2014, c'était l'Iran. 2015-2018, c'était le Venezuela. 2018-2024, c'était l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est pas le FNKS qui a décidé. Donc nous, on est quelque part tenus de travailler avec eux, parce que c'est aussi, encore une fois, un chantier qui a été ouvert par nos anciens et qui nous permet aujourd'hui d'avoir aussi un appui diplomatique dans les missions onusiennes, par exemple. Donc, je ne veux pas dire que c'est un regret, mais c'était simplement la mise en œuvre des différentes motions que nous avons adoptées aussi bien au niveau de l'Union calédonienne et du FNUTS.
Mais vous reconnaissez qu'il y a eu de l'ingérence de la part, et qu'il y en a toujours d'ailleurs, de la part de l'Azerbaïdjan envers la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même un peu dérangeant, non ?
De l'ingérence, il faudrait peut-être nous donner un peu plus de preuves. Hein, mais on doit aussi, quand on fait le débat, Elisabeth, sur les relations internationales, poser un regard sur des difficultés qui sont aussi à nos portes. Je partage avec vous la mouvance diplomatique que l'on observe dans le Pacifique, mais il y a aussi le conflit au Moyen-Orient, où quelque part nous sommes aussi impactés, comme ceux de l'Ukraine aussi. C'est aussi le message, on va dire, des valeurs du pays, quoi, lorsqu'on demande à Paris de pouvoir porter un autre regard sur le peuple français qui souffre aussi beaucoup au niveau social, sanitaire, avec les incendies actuellement. Si vous me permettez, je vais aussi quelque part saluer et puis encourager aussi l'ensemble des différents pompiers et puis des différents collègues des collectivités qui s'engagent tous les jours pour faire face aux différents incendies, mais aussi aux crises politiques qui traversent l'Union européenne depuis la sortie de la Grande-Bretagne. On peut observer la difficulté autour des migrants, notamment autour de la guerre en Ukraine, autour de grands sujets de société comme ça qui doivent aussi nous permettre, encore une fois, de poser un débat clair, sincère avec l'ensemble des parties. Parce que pour les Calédoniens, pour les FNKS, nous n'avons pas vocation à être une puissance militaire du Pacifique, nous n'avons pas vocation à être une puissance économique du Pacifique. Simplement, nous sortons de 30 ans d'accord où, quelque part, on a besoin d'aller vers une souveraineté, mais une souveraineté réfléchie, maîtrisée, avec l'ensemble des paramètres géopolitiques aussi, qui doit sécuriser le pays demain, notamment pour nos populations.
Dans vos fonctions de président de la province des îles aujourd'hui, vous aurez moins le temps de vous occuper de politique étrangère et internationale comme vous l'avez fait ces dernières années ?
Naturellement, je pense, Elisabeth, hein, je me répète, je m'excuse, hein, mais mon sujet à moi prioritaire là, d'aujourd'hui, c'est de pouvoir lever les difficultés de transport, de poursuivre la dynamique de souffle nouveau en termes de lecture comptable et financière, sur la base, encore une fois, de l'ensemble des travaux qui sont déjà engagés, mais aussi de pouvoir créer les conditions pour qu'on puisse retrouver une quiétude sur l'ensemble des îles et qu'on puisse avoir aussi notre place en tant que femme et homme du pays. Hein, j'ai aussi l'occasion d'appeler publiquement toute la famille de la Grande Terre à plus de solidarité avec leur famille des îles Loyauté. Nous, on a donné notre quote-part dans les accords de Matignon-Dino, dans les accords de Nouméa aussi, avec plusieurs anciens qui ont fait campagne avec nous, qui étaient présents dans le Labini, par exemple. Donc aujourd'hui, encore une fois, si on prend la photographie des deux premières vagues du gouvernement pour le pacte de refondation, on peut constater que les îles, elles ont été très peu servies. Mais c'est pas pour ça qu'on va appeler à la solidarité et puis on va rester sous les cocotiers. Donc, je dis, on a aussi un travail à faire au niveau de l'administration pour être plus efficient, pour pouvoir toiletter les différentes méthodes de travail, notamment avec l'État, avec les organismes bancaires, avec l'AFD, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les communes, mais aussi le Congrès, le gouvernement, pour créer les conditions d'une nouvelle dynamique politique pour les îles Loyauté.
Eh bien, bon courage, Michael Forest, et merci d'avoir accepté votre invitation. Je précise que vous avez été bloqué à l'IFU aujourd'hui, vous deviez être à Nouméa en principe. Hein.
Merci Elisabeth, c'est bien ça. Je devais prendre l'avion ce matin, mais c'est notre réalité encore d'insulaire. Voilà. On peut dire que c'est une difficulté, mais il faut aussi prendre les choses, on va dire, de l'autre côté, de la porte de la case, pour dire que c'est encore une opportunité pour continuer à s'investir pour la collectivité, pour le peuple, et puis surtout avec le nouvel exécutif qui vient d'être élu ce matin.
Eh bien, merci d'avoir accepté votre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci, Arabie.